Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et une nouvelle fois, le ciel se déchaîne. Un mois de pluie en 2h cette nuit dans le Gard et l'Hérault. Des inondations à répétition qui usent les sinistrés et qui pourraient bien finir par coûter cher à tous les assurés. On en parle longuement après le journal. Jean-Christophe Lagarde en garde à vue, le patron de l'UDI entendu dans l'affaire des fausses accusations qui ont visé Alexis Corbière et Raquel Garrido, le couple accusé à tort d'avoir employé et maltraité une femme de ménage sans papier. Du sport, évidemment, le PSG réussit ses débuts en Ligue des Champions et Caroline Garcia régale à l'US Open, elle atteint pour la première fois le dernier carré.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part en Lorraine, à Villerue, où la sécheresse est telle qu'il est devenu interdit de se laver dans les vestiaires du stade. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, tous en basket aujourd'hui. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, les sorties ciné de la semaine avec Stéphane Boutsock. Du suspense, de l'histoire, il y en aura pour tous les goûts. La question du jour sur RTL.fr. Autoroute, êtes-vous prêt à rouler à 110 au lieu de 130 km/h pour économiser du carburant?
Et donc gagner un peu plus d'argent. Voilà une excellente question, tout le monde a un avis là-dessus. Autant de sujets que dont vous pourrez parler, bien sûr, comme ceux du Paris Saint-Germain, mais également la justice française nous protège-t-elle? Nous pourrons évoquer tout cela. Jean-Luc Mélenchon qui dit oui, qui dit non, il ne sait pas s'il sera candidat en 2027. Durant, les auditeurs ont la parole.
Mais avant ça, la météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline.
Des orages encore cet après-midi.
Encore beaucoup d'orages et 13 départements dans le sud-est en vigilance aux orages.
Merci Peggy, météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Un mois de pluie en 2 heures. Un nouvel épisode Cévenol a frappé l'Hérault et le Gard la nuit dernière. Des torrents qui dévalent les rues. Mais fort heureusement, pas de victimes à déplorer. Simplement des dégâts matériels. Et à Nîmes, Patrick Tégéro, des sinistrés fatigués par ces inondations à répétition.
Pour rejoindre son hôtel inondé, Geoffrey n'a pas hésité à se mettre à l'eau jusqu'à la taille. Et pourtant,
on avait tout préparé parce qu'on était en alerte rouge. Donc on avait préparé parce qu'on a un système de bâtard d'eau qui permet de ne pas être inondé normalement. Et c'est quand même rentré. Donc on a eu 5 à 10 cm d'eau dans l'hôtel. Mais voilà, on a toute la cave qui est inondée, enfin tout le stock de linge, c'est sous l'eau. Donc l'année dernière, on a été inondé pareil. Ça avait été beaucoup plus dévastateur. On a eu 50 cm d'eau, les frigos, tout est parti à la poubelle. Et cette année, donc du coup, on avait ce système-là qui a été mis en place. Mais le phénomène était encore plus haut que l'année dernière.
Nicolas, lui, dirige un centre de contrôle technique. C'est la 8e fois en 15 ans qu'il est inondé.
On nettoie seul, on n'a pas d'aide de la mairie, personne ne vient nous aider pour nettoyer, on est complètement abandonné.
Quelle est la nature des dégâts que vous avez subis chez vous?
Comme d'habitude, du matériel, le banc de freinage, les ponts élévateurs, et on recommence, voilà. Et avec l'amélioration de la voirie, les techniciens et la mairie avaient tout prévu, sauf le nécessaire.
Cet après-midi, le dispositif préventif des pompiers du Gard est maintenu, 300 sauveteurs dont 52 spécialistes des inondations sont prêts à intervenir.
Patrick Tégéro à Nîmes pour RTL. On reparle de cette question des assurances face aux risques climatiques à la fin du journal. Vous comprendrez que ces inondations ont un coût pour vous, même si vous n'êtes pas directement touché.
L'ancien député Jean-Christophe Lagarde en garde à vue, le patron de l'UDI, entendu après les fausses accusations qui avaient visé en juin Raquel Garrido et Alexis Corbière.
Oui, le couple de détenus insoumis avait alors été accusé dans un article du journal Le Point d'avoir abusé d'une femme de ménage sans papier, ce que les deux élus avaient immédiatement démenti. Fausses accusations dont l'ancien député Jean-Christophe Lagarde pourrait être à l'origine, Cindy Hubert.
Oui, l'auteur de l'article, le journaliste, est persuadé qu'il a été instrumentalisé par Lagarde et par Anouar Bouadjella, un syndicaliste policier, qui est aussi d'ailleurs en garde à vue depuis hier. Ce sont eux qui lui auraient donné cette information, ce seraient ses sources. Alors, qui a manipulé qui et pourquoi? On rappelle que Jean-Christophe Lagarde a été l'adversaire malheureux de Garrido lors des législatives. La députée a beaucoup souffert de cette affaire, sa famille aussi, dit-elle. Elle se réjouit donc que l'enquête avance.
En démocratie, les oppositions peuvent être fortes, on peut se bagarrer de façon virulente, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, le point, avec ce journaliste Aziz Zemmoury, s'il a été capable de publier nous concernant des mensonges aussi grossiers, alors c'est qu'il a pu le faire avant. Et s'il a pu mettre en place des complicités dans le système politique avec des hommes politiques peu scrupuleux, prêts à finalement acheter un journaliste pour faire publier des fake news sur les adversaires, peut-être qu'il l'a fait avec d'autres. Et la police, elle avance. Je suis en attente de résultats, car je ne voudrais pas qu'à la fin, on dise c'était très grave, mais on ne sait pas d'où c'est venu.
Trois gardes à vue sont donc toujours en cours, le troisième homme étant un ancien collaborateur de la garde.
Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Une femme de 22 ans tuée par les forces de l'ordre la nuit dernière à Rennes lors d'une opération anti-drogue. Le conducteur du véhicule qui a refusé de s'arrêter a été lui touché au bras, mais sa passagère, touchée elle par ricochet, est donc décédée. Puis à Marseille, intervention du RAID ce matin pour maîtriser un homme qui a tué sa mère à l'arme blanche, très grièvement blessé son épouse et légèrement blessé également l'un de ses enfants, une adolescente.
Plus de 20% de hausse en moins d'un an, vous le constatez chaque jour en faisant vos courses. Le prix des denrées alimentaires flambe, le panier RTL aussi.
Oui, ce panier, vous le savez, contient des produits de base, sucre, légumes, café, œufs ou conserves. Et il a donc pris 5 euros en 11 mois. Et parmi les hausses les plus fortes, eh bien, il y a le lait. Son prix a bondi de 15 centimes en un mois seulement. Et ça, Virginie Garin, eh bien, ça risque de s'aggraver encore.
Oui, parce que les éleveurs ont vu leurs charges augmenter de 25% entre l'énergie, les aliments pour le bétail. Avec la chaleur cet été, les vaches ont produit moins de lait. Et puis certains producteurs, faute d'aliments, il n'y avait plus d'herbe, ont vendu des vaches. Le troupeau français a rétréci. Donc, ils avaient donné jusqu'à hier aux grandes surfaces pour augmenter les prix dans les rayons. Au moins 1 euro la brique de lait, comme c'est le cas partout en Europe. Quelques enseignes ont passé des hausses, mais pas toutes. Et ils menacent d'actions plus spectaculaires. Sinon, disent-ils, de toute façon, les prix vont augmenter car en Pologne, en Allemagne, les grands pays producteurs, ils sont déjà plus hauts. Alors un Français consomme en moyenne 80 litres par an, 15 centimes de hausse. Eh bien, ça fait 1 euro par mois par personne. C'est le prix à payer, disent les éleveurs, si vous voulez encore en France des producteurs de lait.
Virginie Garin pour RTL et la réponse de Michel-Édouard Leclerc, ce sera ce soir avec Julien Cellier dans RTL Soir à 18h15.
Le football à présent et des débuts réussis, quoique pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Vainqueur quand même de la Juventus.
La dernière demi-heure était plus poussive, exactement.
Kylian Mbappé, lui, apparemment pas trop perturbé par la polémique du char à voile, a mis un doublé. Et ce soir, c'est l'OM qui entre en piste. Ce sera à Tottenham, à vivre évidemment dans RTL Foot dès 20h45.
Elle également, elle impressionne. C'est Caroline Garcia, elle est désormais dans le Final Four à l'US Open.
Oui, pour la première fois de sa carrière, la Française s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle a battu en 2-7 l'Américaine Coco Gauff. Prochaine étape demain, ce sera face à la Tunisienne Ons Jabeur. Pour Caroline Garcia qui revient de loin, Isabelle Langer. Hein.
Oui, après 4 années en perdition, plombée par de nombreuses blessures et une confiance en berne, Caroline Garcia a effectivement repris son ascension vers les sommets. Un retour au premier plan qui coïncide avec un changement de structure. Son père, qui l'entraînait depuis ses débuts, a pris du recul. La Lyonnaise a désormais une petite cellule composée d'une préparatrice physique et physiothérapeute et surtout un nouveau coach, Bertrand Perret, qui lui a redonné foi dans son tennis. Résultat, depuis sa victoire en double à Roland-Garros en juin dernier, Caroline Garcia a gagné 3 tournois, dont un Masters 1000. Elle est au micro de Jean Perronne.
Ta carrière, des fois, elle est faite de haut et de bas et tu dois tout accepter, prendre qu'est-ce que tu peux prendre. Il y a des passages qui ont été compliqués, douloureux et on a réussi à bien rebondir, à avoir confiance dans ce qu'on faisait et ça fait super plaisir pour moi, pour l'équipe et on a toujours envie d'aller chercher plus.
Et pourquoi pas rêver d'une première finale en grand chelem ?
Isabelle Langer pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche, vous nous l'avez dit, encore des orages cet après-midi.
Oui Céline, on a 13 départements du Sud-Est en vigilance orange aux orages. L'Hérault, le Gard et le Vaucluse sont en plus en vigilance orange pluie inondation. L'activité orageuse s'accentue donc dans le Sud-Est et on a une deuxième zone orageuse qui se met en place sur un quart Nord-Ouest avec des averses qui vont se décaler vers l'Est et gagner l'Île-de-France en fin d'après-midi. Seul le Sud-Ouest, la Côte d'Azur et la Corse conserveront un temps calme, le tout sous des température en baisse de 20 à 23 près de la Manche, 23 à 27 au nord, 26 à 30 au sud.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, effectivement, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction la Lorraine où l'on retrouve Dimitri Ramelot, bonjour.
Bonjour à tous.
La sécheresse, Dimitri, est si forte chez vous qu'à Villerue, on a décidé de priver les sportifs de douche au stade.
Oui, devant le niveau catastrophique de la nappe phréatique, mi-août, le maire Pierrick Spisak a signé un arrêté municipal interdisant tout simplement l'utilisation des douches dans les vestiaires. Pas possible de continuer face à la menace de voir des milliers de foyers privés d'eau.
On a pu couper l'eau dans certaines salles et dans les vestiaires, là où il y a le club de foot, on fait confiance. Après, on a des gardiens de salle, donc s'il y a des dérives, nous le remontent direct. Demain, s'il y a des coupures, on parle de coupures pour 5000 personnes. Donc, vaut mieux que les clubs utilisateurs n'aient pas de douche pendant un mois que couper l'eau pendant une durée indéterminée, le temps que la situation se calme, parce que quand on sera approvisionné en bouteilles d'eau, ça sera moins marrant.
Et tous les clubs sportifs de la ville sont concernés, handball, natation, mais également le collège.
Est-ce qu'une solution a été proposée par le maire, Dimitri? Même si vous avez parlé de natation, évidemment, ne pas prendre de douche après la natation, c'est différent de ne pas prendre de douche peut-être après un match de foot.
Effectivement, cet amateur de foot a appelé son homologue d'un village à 2 km pour que les sportifs et adversaires de Villerue puissent quand même venir se doucher après entraînement et match. Inenvisageable pour Roland Sirot, le président du club de foot.
Au niveau de la Ligue, je ne pense pas qu'on puisse se déplacer d'un complexe à un autre, à quelques kilomètres. Il y a une question de sécurité qui n'est pas possible. Pour ma part, je pense qu'on pourrait, pour au moins l'équipe adverse, faire en sorte qu'ils puissent se doucher pour repartir à 200 km. Et le club et la ville en sortiraient quand même grandi, je pense.
Et les joueurs, Dimitri, ils en pensent quoi ?
Eh bien, écoutez, un seul mot revient, incompréhension, comme chez Rémi Gendouz, milieu de terrain de l'entente sportive Villerutile.
On peut pas utiliser donc les vestiaires, mais on peut prendre des douches chez nous. Après, sur le fond, non, mais je peux comprendre qu'il y ait des choix à faire pour pouvoir utiliser l'eau courante. Donc, on sait que nous, au foot, voilà, c'est peut-être pas la priorité, mais ça reste une situation plus que dérangeante et ubuesque.
Alors, à quand le retour des douches ? L'horizon est pour l'instant fixé à fin septembre. Si la situation ne s'améliore pas, la commune pourrait, écoutez bien, déployer 3 km de tuyaux à même le sol, le long d'une route, pour raccorder la ville à un puits.
3 km de tuyaux. Et surtout, l'eau sera froide dans le puits. Merci beaucoup, Dimitri Ramelot.
Vous le savez, merci chaque jour, merci Dimitri, vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on va parler des assurances après les inondations dans le Gard. Est-ce que les uns et les autres sont bien indemnisés ? On pose la question, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
On est reparti pour des dossiers d'assurance, un mois de fermeture, des commandes. Voilà, on n'arrive même plus à, comment dire, à travailler sereinement et ça fait un petit moment que ça dure, quoi. Ça fait 2 années de suite, là, ça commence vraiment à être lourd et pesant, je trouve.
Le témoignage de Nicolas Canipel, sinistré à Nîmes avec Patrick Tégéraud. Nîmes, où il est tombé, on le disait dans le journal, l'équivalent d'un mois de pluie en 2 heures, des inondations qui se répètent et des gens qui, on l'entend, attendent maintenant le passage des assureurs. Justement, on est en ligne avec Olivier Moustakakis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur d'Assureland.com, c'est un comparateur d'assurance. Ces intempéries, elles se répètent, on l'a dit, ce n'est pas la première de l'été. D'abord, pour faire le point, est-ce que tous les sinistrés de l'été ont pu être indemnisés ?
Alors, c'est en cours, hein, clairement. Alors après, on vit une année un peu particulière, hein. C'est un peu l'anus horribilis, hein, puisque depuis janvier, il y a eu un premier chiffrage de l'ensemble des dégâts, on est à 4,3 milliards d'euros. Donc on est vraiment dans une année assez particulière. Et il y a eu 1 200 000 déclarations de sinistres. Donc on est sur des volumétries qu'on n'avait jamais vues par le passé. Donc clairement, la situation est compliquée, puisque bon, entre le régime catastrophe naturelle d'une part, et ensuite votre assurance classique, hein, puisque suivant la nature du sinistre, c'est soit l'assureur directement, soit le fonds de garantie catastrophe naturelle qui intervient, si l'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Donc voilà, donc l'ensemble des acteurs est mobilisé, voilà, mais il faut mandater des experts, enfin il y a pas mal de
procédures
en cours.
Prenons un exemple précis, on a tous vu les feux en Gironde, on a tous vu des propriétaires désarmés. L'un avait, pourquoi pas, une maison à 250 000 euros. De cette maison, il ne reste rien. Combien touchera-t-il et quand touchera-t-il ?
Alors, tout dépend de la nature de son contrat, puisque déjà, l'incendie, ce n'est pas intégré dans le régime catastrophe naturelle. C'est la garantie incendie de votre contrat d'assurance habitation qui prend le relais. Et en fonction des options que vous avez souscrites, soit vous avez la possibilité d'être relogé par l'assureur, d'accord, le temps que les travaux soient diligentés. Donc ça va dépendre un peu de la nature de chaque contrat
mais
d'assurance.
Le feu, par exemple, c'est pas catastrophe naturelle. Donc s'il n'est pas assuré,
n'est pas une catastrophe naturelle.
S'il n'est pas assuré contre le feu, il est, c'est pour, j'allais dire, c'est pour ses pieds. Pardonnez-moi, c'est un peu trop.
Alors la garantie,
de dire ça.
Oui, la garantie incendie, c'est un peu la garantie de base en assurance habitation. Bon. C'est-à-dire, après la question, c'est est-ce qu'il est assuré en habitation ? Est-ce qu'il a assuré son habitation ou pas ?
Alors admettons qu'il le soit. Habitation. Admettons qu'il le soit. 250 000 euros, une maison, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il touchera ?
Alors, il touchera le montant d'indemnisation qui est prévu à son contrat. Donc, en fonction de la valeur du bien réactualisé ou pas, ça va dépendre du contrat et des montants d'indemnisation qui sont prévus.
Mais on peut pas avoir un chiffre, une fourchette moyenne par rapport au type de contrats moyens qui sont souscrits en France?
Les contrats standards sont bien couvrants en multirisque habitation. Donc, il va pas y avoir de débat, si vous voulez, sur le
est-ce
montant
d'indemnisation. Est-ce qu'il sera remboursé? C'est ça ma question. Est-ce qu'il touchera 250
voilà,
000 francs?
Tout à fait.
Vous êtes sûr?
Il sera remboursé. Alors après, en fonction de,
et quand
de l'état de la
et quand
il n'y
a plus rien. J'ai pris l'exemple où il n'y avait plus rien. Et quand
il faut que les experts soient mandatés. Donc, ça peut prendre plusieurs mois, le temps.
C'est ça.
En un an, c'est réglé?
En règle générale, sur ce type de sinistre, ça peut aller assez vite, oui.
L'assurance habitation, vous en parliez. Est-ce qu'avec tous ces risques qui se succèdent, on va l'avoir augmenté? Ou est-ce qu'il y aura de
alors,
plus en plus de clauses
tendance,
qu'il faudra souscrire pour être assuré contre tout?
Alors clairement, il y a une tendance qui est défavorable depuis le début de l'année, puisque vous avez à la fois de l'inflation, donc le coût des réparations ont augmenté. Un exemple concret pour nos auditeurs, le prix des tuiles par exemple a flambé de 30%. Donc si votre charpente est détruite, bon, ben, ça va coûter 30% de plus pour
donc l'assurance pour la faire va augmenter de 30% aussi?
Alors non, on n'est pas dans ces ordres-là du tout, d'accord. Heureusement, c'est un marché qui est concurrentiel, d'accord. Donc il y a une compétition farouche entre les différents assureurs pour quand même soit acquérir de nouveaux clients, soit conserver leurs clients. Donc ça, c'est un bon régulateur de l'évolution des tarifs. Mais clairement, avec l'augmentation de la sinistralité catastrophe naturelle, on voit tout le risque climatique qui explose, puisqu'aujourd'hui, on est, je vous dis, depuis janvier, septembre, on est à 4,3 milliards d'euros. De factures. Et l'année n'est pas terminée, malheureusement.
Donc ça va augmenter. Et est-ce que ça va augmenter différemment suivant la région dans laquelle j'habite ?
Alors clairement, oui. Il y a déjà des zones, si vous voulez, qui sont plus exposées que d'autres. Donc il y a déjà des disparités de tarifs suivant les régions. Ça, c'est lié à la sinistralité. Alors pas simplement à la sinistralité climatique. Ça peut être aussi la sinistralité vol, etc. Donc vous avez des régions qui sont plus chères que d'autres. La Bretagne est moins chère, par exemple, que la moyenne nationale. Puisqu'en moyenne, ça vous coûte 216 euros. Pour assurer votre habitation au niveau national. Et la Bretagne, on est à 171 euros en moyenne. Vous voyez, donc il y a déjà des disparités régionales.
Et on le comprend,
donc,
effectivement.
Oui, ces disparités vont s'augmenter.
Des endroits et en fonction des risques possibles. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Moustakakis. Je rappelle que vous êtes cofondateur de assurland.com. Et c'était notre premier focus du jour. Le deuxième, ce sera les baskets. On est tous frappés aujourd'hui que 80% des gens se baladent en basket. Vous êtes venu en basket, Céline, aujourd'hui.
C'est vrai.
Les filles ne portent plus, quoi, les filles, les femmes ne portent plus d'escarpins.
Bah femmes, si, mais pas pour venir vous voir, Pascal, c'est vrai.
Bon, c'est vrai que c'est une mode, c'est pas nouveau, d'ailleurs, ça, elle a 30 ans, bien sûr. Tous en basket, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, oui, votre vie, car l'info, c'est aussi bien sûr ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui.
Mais oui, Pascal, c'est sympa, les baskets.
C'est quoi les baskets? Dites-moi, je ne sais pas ce que c'est.
Je ne vous ai jamais vu avec des baskets, Pascal. Pourtant, c'est devenu, au-delà de la mode, un véritable business depuis quelques années, la basket. À toutes les sauces, et pour en parler avec nous, Max Limol, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle la culture sneakers, et ce ne sont pas les barres chocolatées.
Vous voulez dire que ce n'est pas que pour faire du sport, la basket, c'est ce que vous voulez dire.
Il va vous l'expliquer, Max Limol, tout de suite. Bonjour.
Bonjour.
Pascal le disait, ce n'est plus réservé à l'activité sportive, et ça fait un moment. Comment on peut expliquer ce phénomène de mode autour de la basket ?
Bah déjà, il faut partir des origines, à savoir que la basket a paru au début du XXe siècle et qu'elle est restée cantonnée à la pratique sportive pendant 50 ans. C'est que dans les années 70, avec l'émergence du hip-hop et des cultures urbaines, elle va briser des codes vestimentaires, elle va être mise en lumière surtout dans les années 80 par des sportifs emblématiques que Pascal connaît, tels que McEnroe, tels que Michael Jordan, tels que Carl Lewis, et qu'elle va devenir un produit de consommation courante. Sauf que depuis les années 2000, même associée au rap ou à d'autres cultures, la basket n'est plus aussi transgressive. L'industrie du luxe va s'emparer du phénomène et justement, en 30 ans, là, on va dire que la basket a acquis ses lettres de noblesse en s'imposant dans tous les dressings.
Sauf celui de Pascal Praud.
Non, elle est arrivée, en fait, elle est arrivée dans les classes au milieu des années 70 et c'était la Stan Smith. C'est-à-dire qu'on allait pour les premières fois à l'école en Stan Smith. Et puis après, ça s'est généralisé.
Il y a une très belle anecdote sur la Stan Smith.
Oui.
Qui ne s'appelait pas la Stan Smith à l'origine, elle s'appelait la Robert Ayer. C'est un Strasbourgeois qui a supervisé la création du modèle et elle a été débaptisée en 1972 pour s'appeler la Stan Smith parce que c'était beaucoup plus vendeur.
Et c'était un modèle, disons-le, d'Adidas.
Sinon, avant, on portait des Robert, donc.
Des Robert Ayer.
Voilà, on portait des Robert Ayer, ceux qui ont les toutes premières éditions qui sont sorties en 65. Effectivement, la basket est siglée Robert Ayer.
Qui est un tennisman célèbre. Bon, la vérité, c'est que c'est plus confort, c'est pour ça. C'est-à-dire que tout va dans le même sens. C'est le soulier, c'est un peu plus contraignant, ça fait un peu plus mal aux pieds. La basket, c'est plus confort.
La basket est plus confortable. Il faut aussi comprendre qu'il y a des stratégies marketing qui sont poussées par les marques, à savoir qu'aujourd'hui, on pousse plutôt le consommateur de l'envie vers le besoin, parce qu'on a des consommateurs qui sont des acheteurs compulsifs, d'autres des collectionneurs acharnés. Mais en gros, aujourd'hui, on est passé de la passion et à la fascination.
Parce justement, les prix s'envolent.
Ça fait rêver. Les prix s'envolent, effectivement, on a toute une bulle spéculative. Il ne faut pas oublier que très récemment, une paire de Jordan s'est vendue 1,5 million d'euros à Sotheby's.
Ça fait cher, la chaussure. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on la marie maintenant, même avec un costume. C'est ça qui peut surprendre.
Ben, c'est l'exemple du Friday Wear où aux États-Unis, généralement le vendredi, ben, les employés pouvaient venir en basket et tout ça est arrivé par la suite en Europe au début des années 2000 où il était fréquent de venir entre guillemets le vendredi sous son costard, se mettre une paire de baskets pour être un petit peu à l'aise, pour être un petit peu plus confortable.
Et s'il y avait trois baskets mythiques selon vous, ce seraient lesquelles, les incontournables?
Alors, j'ai envie de parler très honnêtement de la Air Force One, la Nike Air Force One, qui était très connotée hip-hop, mais qui à la base, le nom vient de l'avion présidentiel américain, donc le Air Force One, et Air Force One. Et notamment, ce qu'il faut savoir sur cette basket, c'est que depuis sa création en 1982, elle a été déclinée en plus de 3000 coloris. En deuxième, j'ai envie de vous parler de la fameuse Converse All-Star, voilà, qui est un passage obligé pour beaucoup d'adolescents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est présente dans 160 pays. Voilà, il y a 850 millions de paires qui ont été vendues à ce jour. Et il faut savoir qu'il se vend une paire de All-Star
et la troisième
chaque seconde.
Et la troisième, très rapidement.
Et la troisième, ça serait la Stan Smith dont on a parlé, tout simplement parce que ça a été une paire toute française.
Que Pascal portait adolescent peut-être.
Exactement, et puis qui est toujours vivante, si j'ose dire, la Stan Smith avec la petite languette verte, même si elle est déclinée parfois rouge. Ben, je vous remercie beaucoup, c'était intéressant. Max Limol, vous êtes spécialiste de la culture sneakers. On a parlé basket, le rappel des titres dans une seconde, et même le journal dans son édition complète à 12h30.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Une femme de 22 ans tuée par les forces de l'ordre la nuit dernière à Rennes, c'était lors d'une opération anti-drogue. Un espoir contre la bronchiolite, un vaccin est en approche. Et vous savez quoi? Il est français. Et puis le retour de l'OM en Ligue des Champions, 30 ans après la saison qui a fait des Marseillais les premiers à jamais. Votre rendez-vous culture, ce sera à 12h50, LVT midi. Aujourd'hui, les sorties ciné avec Stéphane Boutsock. Avant ça, à 12h40, Rouler moins vite sur l'autoroute pour économiser du carburant, efficace ou pas, Christophe Bourou a pris sa calculatrice. Il va tout vous expliquer. Ce sera d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à rouler à 110 sur l'autoroute au lieu de 130 pour économiser du carburant?
Ce sera l'une des interrogations pour les auditeurs. Ont la parole à partir de 13h et on reviendra évidemment sur les excuses de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, qui a fait son mea culpa. On sera ensemble au 32-10 jusqu'à 14h30.
La météo, ce sera à la fin du journal, mais dévoilez-nous la teneur, Peggy Broche, cet après-midi.
Eh bien, ce sera encore bien orageux. On a 13 départements en vigilance orange aux orages dans le sud-est.
Merci, Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
L'opération anti-drogue a donc fait 2 victimes la nuit dernière à Rennes. Une femme de 22 ans a été tuée. Elle était passagère d'une voiture qui a refusé de s'arrêter, Nicolas Burnand. Le conducteur, lui, a été touché au bras.
Oui, il est environ 1h du matin sur la rocade de Rennes lorsque des policiers de la BRI tentent d'intercepter une voiture recherchée dans des circonstances qui devront encore être déterminées. Les véhicules des forces de l'ordre se positionnent pour la bloquer lorsque la voiture fond sur les fonctionnaires. Un policier, percuté, fait alors usage de son arme, blessant le conducteur au bras et sa passagère, touchée par ricochet, qui est décédée. L'homme de 26 ans, placé en garde à vue, est connu pour trafic de stupéfiants. Le policier, légèrement blessé, a été conduit à l'hôpital, mais son état de santé n'est plus préoccupant. 2 enquêtes ont été ouvertes, une confiée à l'IGPN pour savoir si le policier agit en état de légitime défense, et une deuxième pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, menée par la police judiciaire.
Merci Nicolas Burnand pour RTL.
Le RAID a dû intervenir ce matin à Marseille.
Pour maîtriser, oui, un père de famille, un homme qui a tué à l'arme blanche sa mère, mais qui a aussi très grièvement blessé son épouse, Étienne Baudieu.
Oui, et selon nos premières informations, il pourrait donc s'agir d'un drame familial. L'une des personnes prises en otage ce matin dans un appartement de la rue des Phocéens du centre-ville, dans le centre-ville de Marseille, a succombé à ses blessures. Il s'agit, comme vous le disiez, de la mère de l'agresseur. L'auteur des faits aurait également frappé à coups de couteau son épouse qui serait en urgence absolue. Elle aurait été poignardée à plusieurs reprises, plusieurs dizaines de fois, me disait un enquêteur. Parmi les enfants, qui pourraient être, beaucoup de conditionnels dans cette affaire, qui pourraient être les enfants du couple, peut-être au nombre de 3 dans l'appartement. Une fillette aurait reçu 2 coups de couteau, mais ses jours ne seraient pas en danger. Les 2 autres enfants seraient, eux, indemnes. L'homme a donc été interpellé par le RAID. Il se serait lui-même porté plusieurs coups de couteau au moment de l'intervention. Placé en garde à vue, le suspect souffrirait de troubles psychiatriques.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Des mois qu'il attendait ça, Éric Zemmour a enfin pu déjeuner avec Nicolas Sarkozy.
Oui, la présidentielle passée, l'ex-chef de l'État, a donc partagé un repas avec le leader de Reconquête, Marie Mollet.
Oui, information Europe 1 confirmé par les entourages des 2 hommes. Après plusieurs sollicitations pendant la campagne, l'ex-candidat a enfin obtenu une audience dans les bureaux de Méroménil de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy lui avait refusé l'année dernière, le moment était trop sensible. Un repas pendant lequel les 2 hommes sont revenus sur la campagne du polémiste, sur la dureté du débat politique, voire sur la diabolisation qu'Éric Zemmour aurait subi, le rôle des attaques médiatiques, ça c'est ce que dit l'entourage du polémiste. Alors il est vrai, les 2 hommes se connaissent depuis très longtemps et pendant la campagne, Nicolas Sarkozy, disons, a soufflé le chaud et le froid, tantôt en l'attaquant sur les propos qu'Éric Zemmour avait eus sur les victimes de Mohamed Merah, tantôt en prenant sa défense, souvenez-vous c'était sur RTL en décembre, à propos des attaques médiatiques qu'il subissait.
J'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour, je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas? L'agressivité de certains journalistes, ils vont finir par le rendre sympathique, hein.
Mais en tout cas, dans l'entourage de l'ancien chef de l'État, on précise, n'y voyez surtout pas une forme de soutien ou de sens politique. Il s'agissait simplement d'un repas de 2 hommes qui se connaissent depuis bien longtemps.
Marie Mollet du service politique de RTL. L'ex-député Jean-Christophe Lagarde en garde à vue. Il est entendu dans l'affaire des fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière. C'était en juin, un article du journal Le Point les accusait d'employer une femme de ménage sans papier et de lui faire vivre un calvaire. Des allégations fausses que pourrait avoir alimenté le dirigeant centriste. L'homme fort du rugby français devant les juges, le procès de Bernard Laporte s'ouvre dans un peu moins d'une heure maintenant. Le patron de la Fédération française de rugby, soupçonné de corruption et trafic d'influence. Il est accusé en fait d'avoir touché de l'argent pour favoriser son ami Moed Altrad, dont le groupe de BTP a obtenu le premier contrat de sponsoring maillot de l'histoire du 15 de France. Moed Altrad qui est lui aussi sur le banc des prévenus.
Un espoir pour de nombreux parents et notamment les jeunes parents à l'approche de l'hiver. l'hiver et si on détenait enfin les clés d'un vaccin contre la bronchiolite.
Ce virus hivernal, vous le savez, particulièrement dangereux pour les nourrissons, mais aussi pour les personnes âgées, chez qui il fait quasiment autant de victimes que la grippe. Et c'est donc Sanofi, le laboratoire français, qui est en pointe sur le sujet, Agathe Landais.
Oui, Sanofi qui développe ce vaccin en collaboration quand même avec AstraZeneca. Il s'agit d'une injection d'anticorps à destination des bébés dans leur première année. Il a été testé sur 2300 enfants, il est bien toléré et il permet de protéger les petits en une seule injection pour tout l'hiver. Le laboratoire parle d'une efficacité de 80% contre les formes graves de la bronchiolite. C'est clairement le vaccin le plus avancé puisque Sanofi a transmis les résultats de ses essais cliniques à l'Agence européenne du médicament déjà au printemps. Elle devrait se prononcer mi-septembre puis délivrer une autorisation de mise sur le marché courant novembre.
Et on peut l'espérer quand ce vaccin alors bah,
là, pour le coup, ce sera vraiment pas pour cet hiver, ça c'est sûr, puisque après ce feu vert européen, ce sont encore aux autorités françaises de prendre le relais, d'étudier les données cliniques. En général, ça prend un an. Il faudra aussi négocier le prix du vaccin et les conditions de prescription. Sanofi espère donc les premières injections à l'hiver 2023.
Calendrier signé Agathe Landais. Merci Agathe.
Alors que la contre-offensive ukrainienne s'étend, les États-Unis accusent Moscou de se procurer des armes en Corée du Nord.
Oui, les Américains qui, comme les Européens, soutiennent militairement l'armée ukrainienne contre les troupes russes. Moscou qui se tourne de son côté donc vers ses alliés et sa voisine, la Corée du Nord, Julien Fautra, signe peut-être d'un début de pénurie ?
Oui, exactement. Signe que l'armée russe, dont on pensait qu'elle était surpuissante et qu'elle ne ferait qu'une bouchée de la défense ukrainienne, eh bien que cette armée russe est très affectée par l'ampleur des combats d'artillerie aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Les deux pays, Russie, Ukraine, à la recherche permanente de munitions, quitte à se tourner vers des partenaires surprenants, des pays mis au banc de la communauté internationale, vers Pyongyang par exemple.
You have indications that Russia has approached
North Korea. Nous avons des informations selon lesquelles la Russie a approché la Corée du Nord pour lui demander des munitions, explique le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Mais c'est parce que la Corée du Nord produit des obus de calibre 152 mm, ceux utilisés par l'armée russe. Même chose côté ukrainien, qui a encore beaucoup de canons qui datent de l'époque soviétique. Et pour avoir des munitions, il faut se tourner vers des pays qui n'ont pas d'armement dernier cri. En l'occurrence, Kiev a fait des commandes au Pakistan.
Julien Fautra du service étranger de RTL. La Russie qui assure par ailleurs qu'elle n'a pas déployé d'équipement militaire à la centrale de Zaporijjia. Réponse à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui réclame la création d'une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire.
Le foot à présent, et après la victoire du PSG hier soir 2-1 face à la Juve, c'est au tour de l'Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des Champions.
Les Marseillais se déplacent chez les Anglais de Tottenham ce soir. Hugo Hamelin, vous êtes déjà sur place à la gare Saint-Pancras à Londres où quelques 1500 supporters marseillais sont attendus ce soir et certains commencent déjà à arriver d'ailleurs.
Absolument Céline, certains en toute discrétion, d'autres non, habillés Olympique de Marseille de pied en cap. Je me trouve devant la gare de Saint-Pancras, c'est une ancienne abbaye toute en briques, so british, sous la pluie bien sûr, et j'ai pu discuter avec Ludovic et Marine. C'est un couple de Marseillais, ils sont partis à 6h ce matin, ils ne pouvaient pas rater ce premier rendez-vous européen.
Ça fait longtemps qu'on entend ça, on l'avait vécu en 2020, mais Covid, pas de déplacement, donc là, premier gros déplacement européen, Ligue des Champions, donc je pense que tout le peuple marseillais attend ça très 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 fort. On commence avec le plus gros match de la poule à l'extérieur, donc on espère avec les résultats ça là. En tout cas, nous, on sera là, 1500 ici, donc ça va le faire.
Ça monte de tous les côtés, il y en a qui partent de Rodez, il y en a qui montent en car, il y en a qui montent, ça monte de tous les côtés, il y en a qui sont arrivés hier, ça va être chez nous, comme d'habitude, partout où on va, c'est chez nous et voilà quoi, allez l'OM hein.
1000 à 1500 supporters marseillais attendus, ils ont prévu de se rejoindre en centre-ville cet après-midi, 1500 dans un stade de Tottenham qui peut contenir 62 000 spectateurs. Les Marseillais vont devoir faire du boucan pour être entendus ce soir.
Merci Hugo Hamelin. Hugo qui nous fera vivre évidemment cette rencontre Tottenham-Marseille, ce sera dans RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45. Caroline Garcia en demi-finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière. Elle a battu Coco Gauff, elle retrouvera demain la Tunisienne Hans Jaber. Et puis rendez-vous à 17h30 pour les amateurs de volley comme vous Pascal. La France affronte l'Italie en quart de finale du Mondial.
C'est un très beau sport, c'est très spectaculaire et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas une meilleure exposition.
On essaie de faire ce qu'on peut. Peggy, vous faites ce que vous pouvez, vous aussi, avec et le temps, la météo, alors, cet après-midi.
Mais c'est encore bien orageux. C'est vrai qu'on a 13 départements qui sont en vigilance orange aux orages dans le sud-est. Et l'Hérault, le Gard et le Vaucluse sont en plus en vigilance orange, pluie, inondation. Sachant qu'il a déjà beaucoup plu depuis hier. Donc, soyez extrêmement prudents. L'activité orageuse dans le sud-est, elle se renforce cet après-midi. Donc, avec de fortes rafales de vent, de la grêle localement, d'importants cumuls de pluie, je viens de le dire. Et puis, ces averses orageuses vont gagner le nord-est en fin de journée. Autre zone d'averse orageuse qui va se mettre en place dans l'après-midi sur un large quart nord-ouest avec du vent sur les côtes de la Bretagne jusqu'à 70 km/h. Et cette zone, elle va se décaler vers l'est et gagner la région parisienne en fin de journée. Finalement, seul le sud-ouest, la Côte d'Azur et la Corse seront à l'écart de ce mauvais temps. Les températures en baisse de 20 à Cherbourg à 30 à Marseille, 24 à Paris, 26 à Lyon et Bordeaux.
Merci Pays.
Lutter contre le réchauffement climatique en même temps qu'abaisser la facture énergétique, deux bonnes raisons peut-être pour rouler à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130. On pose la question aux auditeurs et on tente une réponse avec Christophe Bourou dans une seconde.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Pour économiser l'essence auto, nous avons donc décidé de limiter la vitesse à 90 km/h sur toutes les routes de France et à 120 km/h sur les autoroutes.
Les plus de 50 ans ont peut-être reconnu la voix de Pierre Messmer, Premier ministre lors du premier choc pétrolier. Et comme en 73, l'idée de réduire la vitesse pour économiser du carburant revient. Et si on passait à 110 sur l'autoroute au lieu de 130? Pour en parler avec nous, le spécialiste maison Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe, vous n'êtes pas dogmatique, mais vous savez compter. On va être très concret, très précis. De quoi on parle? On économise combien de litres de carburant quand on roule 20 km/h moins vite?
Alors, très concret, prenons le carburant le plus consommé en France, le diesel. Si vous roulez, par exemple, à bord d'une Peugeot 308 au gazole, avec ce modèle, si vous conduisez, alors normalement, sans faire particulièrement attention à votre consommation, à 130 km/h sur autoroute, vous allez consommer un peu moins de 6 litres aux 100 km, suivant votre type de conduite. Et à 110, dans les mêmes conditions, en conduisant de la même façon, là, votre consommation de carburant va chuter à moins de 4,5 litres au 100. Autrement dit, une différence de 25%, c'est près d'un litre et demi économisé aux 100 km, ce qui est pas mal. Et ça, vous allez le sentir à la pompe, puisque faire le plein pour 500 km vous coûtera beaucoup moins cher, de l'ordre de 12 € pour un aller simple, donc 24 € pour un aller-retour. Si on globalise à l'ensemble des automobilistes, selon une récente étude, cette baisse permet une économie d'environ 125 € par an, puisque la moyenne, on estime qu'une famille dépense en moyenne 500 € par an de carburant sur l'autoroute.
J'entends cet argument, Christophe, mais celui qui veut déjà baisser sa vitesse pour économiser, il peut le faire tout seul.
Et effectivement, puisque
il n'a pas besoin d'une loi pour ça.
Alors, on est d'accord.
S'il veut dépenser moins d'argent dans son essence, il roule moins vite. Il peut le faire tout seul.
D'ailleurs, la vitesse moyenne sur autoroute aujourd'hui est de 118 km/h.
J'ai appris ça, oui, 118. Donc, bon, ça fait perdre combien de temps sur
500 km, on va reprendre notre exemple.
500 km.
Toujours au long de la 308. Alors, il faudra 3h50 si vous roulez à 130. Si je lève le pied, 20 km/h en moins, là, je vais mettre 4h30. Autrement dit, sur un trajet de 500 km, ça vous fera arriver 40 minutes plus tard.
Sachant qu'on ne fait pas tous les jours 500 km, donc c'est une fois de temps en temps. Ça, voilà. On peut imaginer arriver 40 minutes plus tard.
De l'ordre, alors, s'il faut retenir un chiffre, c'est de l'ordre de 8 minutes aux 100 km. C'est d'ailleurs un argument des professionnels qui citent une étude en disant que ça coûterait extrêmement cher, de l'ordre de 550 millions d'euros aux entreprises par an, malgré l'économie en carburant due à ce retard. En revanche, je sais qu'il y a, il y a un point que vous aimez particulièrement, la voiture électrique, et bien là, paradoxalement,
vous le cherchez, Christophe.
Mais
vous
le cherchez. En roulant à 110 km/h, alors là, vous allez gagner en temps et en carburant, enfin en carburant, en électricité, puisqu'il vous faudra grosso modo presque deux fois moins de temps en roulant à 110 km/h.
Vous parliez de la voiture électrique, au-delà de l'aspect économique, il y a un intérêt écologique aussi à réduire la vitesse comme ça sur autoroute?
Oui, bien sûr. Là, on est de l'ordre de 25% de CO2 en moins, ce qui est quand même là aussi assez conséquent, en sachant qu'il y a un peu plus de 45 millions de voitures qui empruntent chaque année nos autoroutes. Mais on l'a rappelé, la vitesse moyenne pour l'instant est de 118 km/h sur ces autoroutes.
Non, mais la difficulté, c'est la course à l'échalote, parce que vous dites 110, mais on peut peut dire 100, et puis on peut dire 90, et puis pourquoi pas 80, et puis on économisera toujours plus. Donc chaque jour, il y a une nouvelle injonction. C'est les jets privés, c'est les piscines, c'est les portes des magasins qu'il faut fermer. C'est tous azimuts, et c'est une société qui peut effectivement, de ce point de vue-là, un peu être effrayante.
Souvenez-vous du 80 km/h, hein, ce que ça avait déclenché. Donc là, le gouvernement marche un peu sur des œufs, en se disant que s'ils prennent ce type de mesures, ça risque de mettre le feu aux poudres, d'autant que le prix de l'essence a baissé, certes grâce au bouclier, on va dire, gouvernemental, mais dans quelques mois, ça va augmenter. Donc si le prix de l'essence augmente et en même temps les 110 km/h arrivent, ça risque d'être assez explosif. Il y a quelque chose, alors on parlait tout à l'heure, vous me parliez en antenne de la sécurité, juste un dernier point, il faut savoir que les associations de sécurité routière sont contre, puisqu'elles estiment que les automobilistes vont prendre les voies détournées, c'est-à-dire les nationales, où là c'est 3 à 4 fois plus dangereux.
Et ben voilà un argument intéressant. Dans un instant, laissez-vous tenter midi, nous parlerons avec Stéphane Boutsock, notamment des coups de cœur cinéma. Merci Christophe Bourou, à tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Praud. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Et la culture, c'est tous les jours dans RTL Midi vers 12h50. Mercredi, c'est cinéma.
Et on retrouve donc Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour tout le monde.
Deux coups de cœur pour vous cette semaine pour deux films très différents. Oui. D'abord un thriller d'espionnage, Compromat de Jérôme Salle.
Alors ça, le thriller d'espionnage, c'est un genre qu'on a pas mal pratiqué à une époque en France, qu'on avait un petit peu oublié. Et Jérôme Salle, il ramène ça sur le devant de la scène. C'est lui qui avait fait la série des Largo Winch. Mmh. C'est lui qui avait fait l'Odyssée, le film sur la famille Cousteau. Là, il revient avec un film qui est adapté d'une affaire réelle. Un attaché culturel français qui était employé en Sibérie, donc en Russie, a été victime donc d'un compromat. C'est une sorte de mécanique d'État. En fait, on vous colle un complot sur le dos, partant d'une nouvelle tout à fait fausse. On vous met en prison et après, on vous oublie pendant quelques années. C'est exactement ce qui va arriver à Gilles Lelouch dans le film, parce qu'il a dérangé la mafia, les services secrets, les autorités locales de Irkoutsk. Et il va se retrouver en tôle accusé de pédophilie. C'est quand même un délit extrêmement grave. L'idée du film, c'est comment il s'en sort et comment il va s'évader. Ça, c'est la deuxième partie du film qui est totalement maîtrisée. C'est vraiment un grand thriller porté par Gilles Lelouch qui est en train de prendre une vraie dimension dans le cinéma français.
Depuis 2-3 ans,
rôle après rôle,
il explose dans...
Vraiment, il est épatant dans le film qui est à la fois intime et spectaculaire. Écoutez-le.
Cet homme qui a déjà un genou à terre parce que ça se passe très mal avec sa femme, il va avoir un deuxième genou à terre, donc il va être complètement à terre et puis ensuite il va être totalement allongé par terre. Et on peut imaginer que cet homme est foutu. Et en fait, il y a un sursaut, il y a une soif, il y a une envie, il y a un rebond. Et ça, j'adore ça, en fait. J'adore l'idée que rien n'est jamais perdu, qu'on a toujours une foi, un espoir, une lueur, quelque part. C'est ce que j'ai écrit avec Le Grand Bain, finalement. Alors là, c'est de façon un peu plus musclée. Tout ça me plaît de façon fondamentale. Et surtout, Jérôme a fait un truc que j'adore, c'est qu'on fait de l'intime et du spectaculaire. Ça, c'est plutôt rare dans la grammaire française.
Jérôme Salle, c'est le réalisateur, et Gilles Lelouch, c'est donc l'acteur principal de ce film, Compromat.
Et pour les amateurs d'histoire et de politique, oui. Le tigre est le président de Jean-Marc Perfitte, avec
qui est
André.
De la famille d'Alain, d'ailleurs, absolument, avec André Dussolier.
Et Jacques Gamblin.
C'est la rivalité Clémenceau-Paul Deschanel. Tout le monde a oublié qui a été Paul Deschanel, qui a été président.
On l'a pas oublié parce qu'il est tombé de train. Alors, et il n'est resté dans l'histoire que parce qu'on l'a récupéré en pyjama.
Et il est resté 7 mois seulement à l'Élysée. Le film nous explique 1924. Pourquoi. Oui, parce que cet homme-là était malade, était souffrant, était sous médicaments. C'était un poète, un visionnaire. Ce qui est fou, c'est qu'il a mis au point des réformes qui sont en train d'être appliquées aujourd'hui par d'autres. Il a parlé écologie, il a parlé droit des femmes, mais on a gardé en effet dans les manuels et encore ces deux lignes le fait qu'un jour il est tombé d'un train et qu'il s'est retrouvé perdu dans la nature. Celui qu'il incarne, c'est donc Jacques Gamblin. Comment justement fait-on pour donner vie à l'écran à quelqu'un qu'on a complètement oublié ?
Il y a des images, mais peu. Alors après, oui, je regarde quelques vidéos, évidemment, je l'écoute. C'est une grande joie, en fait. C'est la raison, une des raisons principales d'accepter un tel film. C'est de découvrir et d'avoir le bonheur de faire découvrir. C'est incroyable qu'on ne soit pas au courant de ça, que cet homme a fait toutes ces propositions. Voilà, j'en passe et des meilleurs, l'abolition de la peine de mort, le vote des femmes. Toutes ces propositions qui sont arrivées les unes après les autres, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le vote des femmes, c'est 45. La peine de mort, c'est 81. C'est pas d'inter. Des idées qui à l'époque, paraissaient révolutionnaires. révolutionnaire, mais on ne l'a pas écouté. Bon, il n'a pas eu le temps d'aller au bout, ça c'est sûr. 6 mois au pouvoir, 6-7 mois au pouvoir, c'est un peu court.
Paul Deschanel, donc c'est Jacques Gamblin, Georges Clemenceau, c'est André Dussollier avec la moustache, le postiche, il est parfait André Dussollier dans le rôle. Et ce qui est merveilleux dans le film, quand vous irez le voir, c'est la qualité des dialogues, parce que tout est basé sur les vrais dialogues, la rivalité entre ces deux hommes, notamment à l'Assemblée nationale, et c'est extrêmement savoureux. Je rajoute un autre film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Revoir Paris d'Alice Vinocourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel. C'est le premier film en France sur l'après-attentat de 2015, comment on accepte d'avoir survécu à ça et comment on se reconstruit. C'est absolument remarquable.
Et puis cette musique qui vous dit, je suis sûr quelque chose, Pascal.
Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel.
Just Jacking, 1974.
Emmanuel.
Alors, j'avais pas le droit de le voir. Hein. J'avais 10 ans, je passais devant les cinémas, mais on n'avait pas le droit d'entrer.
Vous savez qu'il est resté 10 ans à l'affiche des Champs-Élysées, oui. 533 semaines exactement, 9 millions d'entrées pour Just Jacking, donc le metteur en scène qui est après devenu galeriste, qui a beaucoup continué. Il a fait Histoire d'eau, il a fait Madame Claude après, oui. Mais évidemment, Emmanuel, c'est le film emblème de sa carrière.
Philippe Labro lui a.
Dont on a appris la disparition aujourd'hui.
Philippe Labro lui a rendu hommage sur Twitter. Il a dit Judge Jacquin, un de mes plus vieux amis, connu à Alger vers la fin de la guerre, joie de vivre, multiplicité des talents, photos, sculpture, cinéma, juvénile affection à l'égard des autres, admirable sérénité, courage face au cancer. Adieu, brother, a écrit Philippe Labro.
Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel.
Sylvia Christel est décédée également, qui absolument incarnait Emmanuel. Merci Stéphane Boutsog. Dans quelques instants, bah vous pourrez réagir, pourquoi pas sur Emmanuel, mais sur les 110 km/h, sur Christophe Galtier, tous les sujets du jour. Les auditeurs ont la parole, c'est au 3210 jusqu'à 14h30.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL.
À la seconde près, il est 13h.